Bonjour à tous, vous allez bien? Vous êtes quelques-uns à avoir vu le titre du message d'aujourd'hui. Une fois par semaine ou à peu près une fois par semaine ou une fois ou deux semaines, j'envoie une petite capsule vidéo sur un groupe WhatsApp de 1 minute environ, 3 minutes gros maximum. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, simplement venir me voir à la fin, ça permet simplement de... C'est un petit mot d'encouragement, un petit mot qui annonce un petit peu parfois ce qui va se passer d'un dimanche à l'autre. Donc si vous êtes intéressé à la recevoir quand elle est envoyée, simplement venir me voir et ça me fait plaisir de vous rentrer dans ce groupe-là où vous pouvez avoir accès à cette capsule. Moi, ça me facilite la tâche en termes de communication. Et tout ça pour dire que vous êtes quelques-uns à avoir vu le titre à l'avance, « Comment échouer ?» Vous êtes courageux d'être là. Pour ceux qui savaient déjà de quoi est-ce qu'il s'agissait. Comment échouer? C'est complètement un non-sens parce qu'en règle générale, on essaye tous de trouver le moyen de réussir. Comment avoir du succès dans notre vie en général? Et là, on va regarder comment échouer. Et j'ai fait l'exercice pour ma part et je suis arrivé... Et sur la capsule, j'avais encouragé ceux qui écoutaient la capsule de le faire chacun chez soi, pour ceux qui le veulent, évidemment. Et puis, en fait, je ne l'ai pas mis pendant tout le temps de la louange parce que je me suis dit, si on va louer le Seigneur et que tout le long, on voit comment échouer, ce n'est peut-être pas très motivant. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais vous l'avez quand même à l'écran. Et j'ai fait l'exercice et je suis arrivé à 21 choses concrètes. Et la liste aurait pu continuer. 21 choses très concrètes sur comment échouer. Et puis là, je vois un peu vos visages, je vous dis, mais il me semble que l'idée, c'est de réussir. J'aimerais, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y en a qui ont fait l'exercice? J'ai croisé quelqu'un qui, jusqu'à jeudi ou vendredi à peu près, m'a dit, ben moi, je suis rendu à 13 points sur comment échouer. Et la liste semblait continuer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient fait l'exercice par hasard? Comment échouer dans notre vie? Non, vous n'avez pas fait l'exercice? Juste l'idée de faire l'exercice vous a découragé. Vous savez, une des choses qui m'inquiète, et effectivement, on vit des moments difficiles au niveau de tout ce que l'on sait, de la société, des virus, etc., etc. Et j'ai pas un message du tout qui va dans ce sens-là. J'aimerais simplement vous partager une inquiétude que j'ai au niveau de l'état spirituel des croyants, l'état spirituel de l'Église. Et contrairement au risque d'en choquer quelques-uns, ce qui mine la vie de bien des couples, des foyers, ce qui fait avorter nos nobles projets, ce qui prive l'Église d'hommes et de femmes solides dans la foi, ce que j'appelle des piliers dans leur foi, ce n'est pas tellement le diable, au risque de choquer quelques-uns, mais bien une, je vais vous dire la suite à la fin du message, mais rappelez-le-moi, si je ne vous l'ai pas dit, rappelez-le-moi. Et je me suis imaginé à plusieurs reprises dans ma vie une méga conférence. On a été à Palexpo la semaine passée avec environ 2 000-2 500 personnes. Et je me suis souvent posé la question, quelle serait la réaction si on organisait une méga conférence avec plusieurs orateurs reconnus, réputés, et la thématique du week-end, vendredi, samedi, dimanche, serait « Venez en grand nombre à ce week-end sur comment échouer !» Je me demande. Alors là, on n'est pas dans une méga conférence, on est entre nous et j'aimerais un message vraiment, je pense, quelque peu atypique ce matin. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Plusieurs d'entre nous sont en vacances, alors profitez bien de vos vacances ou si vous écoutez ce message en rediffusion, nous espérons que vous avez vraiment pu profiter de votre temps de vacances. Et j'aimerais qu'on puisse s'imaginer comme un méga grand salon ensemble. On est entre nous, on n'est pas dans une conférence avec des orateurs réputés, on est juste entre nous. Et puis on se pose la question, comment faire pour échouer? Même si la question semble ridicule, stupide, moi, en ayant fait l'exercice, je peux vous dire, j'ai été surpris de voir à quel point cette réflexion-là, il y a quelque chose de productif derrière cette réflexion-là. Message très, 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 très concret. Et je prie pour des hommes et des femmes qui vont se lever dans notre génération, des jeunes et des âgés, toutes générations confondues, qui vont se lever comme des piliers solides dans leur vie de tous les jours, des piliers de la foi. Je ne parle pas d'hommes et de femmes qui sont parfaits. Je ne parle pas de personnes qui n'ont jamais aucun défaut, qui réussissent tout le temps. Mais je parle d'hommes et de femmes qui arrivent à tenir ferme dans leur foi, malgré les vents et marées, malgré tout ce qui se vit dans les émotions, malgré ce qui se vit dans la vraie vie qui est difficile. Je prie pour des hommes et des femmes. Je prie pour moi-même, premièrement. Je prie pour être un homme solide, un pilier, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, quelqu'un à qui on peut regarder, quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un à qui on peut s'accrocher. Je prie, l'Église, il est temps, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous nous levions et que nous disions, maintenant ça suffit, avec ou sans les épreuves, je vais me tenir debout dans la foi, avec ou sans les réponses à toutes mes prières, je vais me tenir pour mon Dieu, je vais être solide, je vais croire que le meilleur est devant, même si le pire est en train de se vivre présentement. Et ce qui mine l'Église, ce qui fait avorter des projets, ce qui détruit des couples, ce n'est pas tant le diable que ça. 21 choses, et je ne vais pas les mentionner toutes, mais quasiment, je vais être très, très concret. Le prochain verset, message atypique, j'ai quasiment pas de verset aujourd'hui. Je vais avoir des mentions de scénettes bibliques pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Mais le verset, le prochain, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » La version second 21 ou Louis II, les versions classiques vont dire « Je souhaite que ta santé physique soit à l'image ou soit le reflet de l'état de ton âme. » Et j'aime beaucoup ce verset parce que là, il y a beaucoup de choses. Il le souhaite, ces gens qui parlent. « Je souhaite que tu sois prospère. » On parle d'échec, réussite. Je souhaite que tu sois prospère. Je souhaite que tu sois prospère dans ta vie de disciple. Non, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Je souhaite que tu sois prospère dans ta vie de couple. Je souhaite que tu sois prospère dans tes affaires, dans ton travail. Je souhaite que tu sois prospère dans ton sport. Je souhaite que tu sois prospère dans ta santé comme tu l'es dans ton âme intérieure. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. On a un Dieu qui est hyper, ultra, méga concret, terre à terre. C'est pas pour rien qu'il a envoyé sur terre Jésus. Il n'a pas envoyé un ange, il a envoyé son fils sous la forme d'un être humain qu'on peut toucher, sentir, qui a des émotions, qui est dans la vraie vie. Et parfois, je crains que comme chrétiens, nous sommes un peu sur des nuages que Jésus lui-même ne s'est pas perché. On va regarder ça. On va démystifier certaines choses ce matin. Trop souvent, nous cherchons à réussir, et c'est un terme général, hein, l'échec, la réussite. Vous avez compris, l'idée, c'est de provoquer quelque chose en nous, ce titre. Comment échouer? De provoquer une réaction, provoquer une réflexion qui va nous amener à une réaction. Je nous invite encore une fois à ne pas laisser passer 2020 sans... avoir l'intention de mettre en pratique ce que nous entendons ici ou ailleurs et qui est vraiment confirmé par ce que la Bible nous enseigne, à mettre en pratique ce que nous entendons. Alors, voilà, voici une des choses. On va regarder un peu la liste. Comment échouer? Par exemple, continue à ne pas prendre du temps avec Dieu. Que ce soit à travers la lecture de la Bible, la louange, les temps personnels, dans le silence, la méditation. Continue à le faire. Et tu vas vivre certains échecs dans ta vie, si ce serait que dans ton âme intérieure, il y a quelque chose tu vas perdre ta joie de tous les jours. Continue à porter les fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Continue. Tu es sur la bonne voie pour échouer. Les versets ne sont pas à l'écran, mais je vous les mentionne, et la plupart d'entre vous les connaissez. 1 Pierre 5, 7. C'est vraiment intéressant parce qu'un Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » On s'arrête souvent sur « Déchargez-vous sur lui de tous et soucis. » C'est rare qu'on s'arrête sur « De tous vos soucis. » C'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui portent le fardeau des autres. Il va y en avoir pour tout le monde ce matin, je vous le dis tout de suite. C'est impressionnant de voir comment est-ce que des gens écrasent dans leur vie moralement, spirituellement, psychologiquement. Et quand tu t'arrêtes, tu t'assieds avec ces personnes-là, tu t'aperçois, portent des fardeaux qui ne sont pas les leurs. Comme s'ils n'en avaient pas déjà assez dans leur vie. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fardeaux, j'en ai. Ceux des autres, je peux aider, mais je ne peux pas les porter. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait pour moi et qui l'a fait pour toi. Alors, continue à porter les fardeaux des autres, puis tu es sur la bonne voie pour échouer, pour vivre un crash spirituel. Il dit bien, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et c'est bien dans la vie, des fois, de faire cet exercice. Jusqu'à quel point est-ce que ce qui est en train de m'affecter et prendre sur moi, jusqu'à quel point ça m'appartient? Et jusqu'à quel point, en fait, ça appartient au choix de ceux et de celles qui sont autour de moi. Alors, on continue la liste. Ça va? Pas trop en état de choc? Préparez-vous parce que ça risque d'être pire plus tard. Continue à refuser de faire les premiers pas. Continue de refuser à faire les premiers pas pour pardonner quelqu'un ou pour demander pardon à quelqu'un. Continue comme ça, ça va super bien aller dans ta vie. Continue. Et puis ça, on peut l'appliquer ce principe dans bien des domaines, hein, pour les jeunes qui sont en recherche d'une amoureuse, d'une amoureuse. Ou même les plus âgés. Ah, j'arrive pas à trouver la femme de ma vie. Et puis là, tu vois quelqu'un, puis t'es pas sûr, puis tu sens que la chimie, elle est, mais là, t'oses pas et tout. Puis tu fais jamais les premiers pas, puis tu te réveilles à X années, puis tu dis, pourquoi je suis encore célibataire? Ben, continue à ne pas faire les premiers pas. Et puis voilà, tu vas trouver la réponse. On se comprend qu'ici, je simplifie bien des choses. Hein, chaque situation du cas par cas, là, je ne suis pas en train de dire qu'une fois que tu fais ça, tout va bien, évidemment. C'est des exemples que je donne pour nous allumer quelques lumières en nous. Continuez à refuser les premiers pas. Voyez-vous, lorsque on s'arrête sur le comment échouer, ça nous amène à se poser la question, pourquoi j'ai échoué? Et lorsqu'on trouve le pourquoi j'ai échoué, je peux découvrir le comment je peux arriver sur le podium des vainqueurs dans la foi. Il y a un mécanisme. Exemple concret. Refuse de faire les premiers pas. Ça pose la question, mais pourquoi je ne fais pas les premiers pas? L'idée, ce n'est pas, ben, demain, je vais faire les premiers pas. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont plus fortes que nous. On n'arrive pas. OK, comment échouer? Ben là, c'est parce qu'en fait, je refuse de faire les premiers pas. C'est ça. Oui, maintenant, tu remontes un peu plus loin. On réfléchit. Pourquoi je ne vais pas faire les premiers pas? Et là, tu peux sonder ton cœur. Ben, parce que j'ai peur. Parce que j'ai vécu une mauvaise expérience à un moment donné. Parce que j'ai des préjugés à l'égard de l'autre personne. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Par exemple, quelqu'un qui joue au piano, fait une mauvaise note, continue à frapper sur la mauvaise note, puis tu auras une mauvaise tonalité, une mauvaise mélodie. Continue à faire ça, puis ça sera toujours faux, puisque tu tapes toujours sur la mauvaise note. Mais là, tu pousses ta réflexion, tu te dis, bon, pourquoi est-ce que je tape toujours sur la mauvaise note? Alors, j'y connais rien en musique, c'est des exemples que je donne, vous avez compris, c'est caricaturé. Peut-être que tu tapes sur la mauvaise note parce que ton tabouret en face du piano est placé d'une certaine façon que ton doigt arrive toujours sur la touche. Peut-être que tu as juste à décaler un peu ton tabouret et puis ta note va arriver, ton doigt va arriver au bon endroit. Peut-être ça peut être ça. Peut-être c'est parce que tu as toujours répété puis tu dis, bon, ben, voilà, dans ta tête, dans ta pensée, il y a toujours tac, puis il y a un mouvement qui fait, mais tu cherches la source. Pourquoi? Peut-être qu'il est mal réglé. Peut-être que tu regardais ailleurs à ce moment-là. J'en sais rien. En voiture, si tu fais un excès de vitesse, continue à rouler vite et tu vas échouer, tu vas avoir des contraventions. Alors, tu peux faire le même exercice. J'ai quelques solutions. Comment est-ce que je peux réussir à ne pas échouer de façon à avoir des contraventions? Bon, première solution drastique, je ne conduis pas. Ça règle la question. La deuxième, je m'attelle vraiment à me concentrer sur garder mon compteur pour ne pas dépasser la limite de vitesse. Puis si vraiment je n'arrive pas à arriver là, ben à un moment donné, avec la technologie d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le limitateur de vitesse ou le cruise control, l'un ou l'autre. Peut-être si tu n'arrives pas et tu as la tête ailleurs, ben mets le limitateur de vitesse puis tu vas voir. Voyez-vous, parce que je fais l'effort de regarder comment je fais pour échouer, m'amène à pousser à la réflexion, à dire pourquoi est-ce que j'échoue? Il y a quelque chose que je ne fais pas comme il faut. Et là, je peux corriger le tir. Ça va, vous n'avez pas trop mal à la tête? C'est clair, hein? Continue à vouloir t'en sortir sans une aide extérieure. Continue. Il y a des situations dans la vie, mon cher ami, où tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté qui t'aide. Un frère, une sœur, un ami, un parent, un pasteur, un psychiatre, un psychologue, je ne sais pas qui, mais il y a des moments dans la vie où tu ne peux juste pas tout seul. Tu as besoin de quelqu'un. Alors continue absolument à vouloir t'en sortir tout seul, sans une aide extérieure. Là aussi, tu peux pousser la mécanique et dire, pourquoi est-ce que je ne vais pas chercher de l'aide? Continue à ressasser le passé. Encore une fois, c'est facile à dire. Mais si tu n'arrives vraiment pas, peut-être que justement, tu as besoin d'une aide extérieure pour t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu ressasses le passé. Continue à repousser ceux qui t'aiment. Il y a des personnes qui systématiquement vont repousser tous ceux qui manifestent de l'affection envers. Continue à le faire. Puis tu vas vivre avec la réalité de quelqu'un qui s'isole. Continue à fréquenter les personnes qui t'éloignent de tes valeurs. Continue. La Bible, elle le dit à Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors continue. Je ne suis pas en train de dire de ne pas te tenir avec des gens qui n'ont pas la même valeur que toi. Ce que je suis en train de dire, c'est que si ton cercle principal, à la limite, ça peut être ton cercle principal, mais si ce cercle-là te tire par le bas plutôt que par le haut, eh bien, continue, tu es sur la bonne voie pour l'échec. Parce que les mauvaises compagnies qui auront les bonnes mœurs. Il y a un principe derrière ça. Et il y a des choses dans la vie, c'est dans la Bible, celle-là, et c'est comme si on ne les voyait pas. Et là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je fréquente des gens qui m'attirent loin de mes valeurs spirituelles, de mes valeurs de famille, de mes valeurs de fidélité, de loyauté? Pourquoi? Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un vide à remplir, peut-être que je suis en train d'oublier qu'est-ce que Jésus a fait pour moi à la croix, peut-être que je réalise plus ce que Christ a fait pour moi, puis là, je suis en train, un peu comme les Égyptiens, c'était tellement bien dans le pays des Égyptiens, pourquoi est-ce qu'on n'y retourne pas? Là, on est pris avec la mer d'un côté, l'océan d'un côté, les ennemis de l'autre, on retourne en arrière. Il y a quelque chose à aller chercher derrière ça. Donc, continue à fréquenter les personnes qui t'éloignent de tes valeurs. Continue à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Imaginez un instant, Jésus arrive, voit Zachée. Et c'est Luc 19, verset 5, il dit, Zachée, dépêche-toi, parce qu'aujourd'hui, c'est chez toi que je dois manger. Puis il dit, dépêche-toi, parce qu'aujourd'hui, c'est chez toi. Imagine que Zachée est là, il a fait l'effort, comme plusieurs d'entre nous avons fait, c'est en fait comme chacun d'entre nous avons fait l'effort de venir un dimanche matin ou de venir un moment dans nos temps personnels pour venir rencontrer Dieu, peu importe. Et là, on est perché sur notre arbre, on est perché sur la réalité de notre vie. Puis, ah, je vois Jésus, oui. Et Jésus arrive. Oh. Jésus parle au cœur et Jésus dit un jour, dépêche-toi de descendre de où tu es, puis rejoins-moi parce qu'aujourd'hui, j'aimerais manger chez toi. Imagine un instant que Zachée dirait, aujourd'hui, je ne peux pas. Non, aujourd'hui, je ne peux pas. Écoute, Seigneur, demain, c'est parce que tu n'as pas compris, Zachée. Moi, je n'ai pas que ça à faire dans la vie, tu vois. Il y a d'autres personnes comme toi que j'ai besoin de rencontrer. Puis moi, le temps que j'ai présentement, c'est aujourd'hui. Fait que c'est aujourd'hui ou demain, je serai dans une autre ville. Et dans notre vie, parfois, on remet à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, souvent d'ailleurs. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on plafonne dans la réalité de nos vies, dans le quotidien de nos vies. Continue à envier les autres au lieu de te concentrer sur toi. Ouch. Continue. Continue à regarder dans la cour du voisin. Tu es sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Continue à idéaliser le couple, la famille, celui que tu vois sur les réseaux. Continue à regarder ailleurs. Continue à envier. Pourtant, la Bible nous dit clairement, Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par rivalité. » Au contraire, regardez les autres comme plus importants que vous. Plutôt que de te concentrer sur toi. Ouais, mais la Bible nous appelle quand même à regarder à Jésus, pas sur soi. Ah, c'est drôle parce que la Bible dit aussi que nous sommes responsables des talents que nous avons reçus. Matthieu chapitre 25, verset 20. À l'un, il donne tant de talents, à l'autre, 3, 4, 5 talents. Puis là, Jésus revient. Puis chacun a géré ses talents d'une façon différente. Puis la conclusion de l'histoire, c'est que Jésus arrive et lui dit « Enlevez les talents à celui qui n'avait rien. Celui qui avait puis qui a fait ce qu'il fallait, on va lui donner encore. Sois fidèle dans les petites choses et je t'en confierai des plus grandes. » La Bible parle de succès, la Bible parle de prospérité, la Bible parle de réussite. Le CEP parle de succès. Restez collés à moi et vous aurez un fruit abondant. Si ça, ce n'est pas du succès, je ne sais pas. Après ça, il faut définir ce que c'est le succès. Mais c'est quand même un succès selon le cœur de Dieu. Sois prospère. Tu as un talent, tu es responsable. Arrête de regarder les 10 talents des autres et puis fais fructifier les 3 que tu as reçus. Continue à regarder plutôt que de te concentrer sur ce que tu as. Quand j'y continue, le miroir est pour moi aussi. Je vous l'ai dit, j'ai fait l'exercice pour moi. Ça m'a fait tellement mal, je dis non, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je fasse mal aussi, il faut que je partage la douleur. Continue à t'enfermer dans des jeux vidéo et réseaux sociaux. Alors ça, c'est général. J'aurais pu mettre les hobbies. Ça peut être collectionneur de temps. Moi, je connais des personnes qui ont une passion qui prend toute leur vie. Ça peut être le sport, ça peut être le travail, ça peut être un hobby quelconque. Continue à t'enfermer dans ton monde virtuel. Continue à t'enfermer dans ton monde de hobby. C'est pas mal, ça. Mais à tel point que ça prend toute la place dans ta vie de famille, dans ta vie personnelle, dans ta vie de travail. Continue. T'es sur la bonne voie pour prendre du poids. Allez, c'est une caricature, prenez pas ça au premier degré. Continue à être désagréable avec ton entourage. Continuons à être désagréable avec notre entourage, avec mon épouse, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes collègues. Continue à être désagréable, tu es sur la bonne voie. Continue à mal te nourrir. La Bible parle de la nutrition, on n'en parle pas beaucoup, mais les abus de table sont dans la Bible aussi. Continue. Alors parfois, bien se nourrir, ça coûte plus cher, c'est vrai. Mais là encore, on peut se faire la réflexion, pourquoi? Et le principe s'applique à chaque aspect. Pourquoi est-ce que je me nourris mal? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas cuisiner, j'aime pas cuisiner? Ben, peut-être que c'est le moment de t'intéresser, puis de regarder sur Google, et puis Marmiton, et puis essayer. Sors un peu de la routine, puis essaye. Il y a des recettes pas chères qui sont accessibles. Alors, ça peut être un problème de budget, ça peut être un problème de passion, ça peut être un problème d'horaire, ça peut être que tu as une vie tellement... Tu n'as jamais le temps, il y a des gens qui sont tout le temps sur la route. Des gens, il y a des pasteurs aussi, j'en connais, et pendant un certain temps, je l'ai été souvent. Et encore maintenant, c'est parfois, si je ne fais pas attention, tu as des rites de vie où tu n'as pas le choix. Oh, un petit McDo ici, c'est entre deux, on mange rapidement, tac, tac, tac. Alors, peut-être c'est une question d'horaire. Peut-être que ton problème de tu te nourris mal, c'est une question d'horaire. Mais alors, une fois que tu as compris ça, rectifie le tir. Prends du temps. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très fort à la fin de tout ça. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça fort. Ah, celle-ci, je l'aime. Oh là là. Vous savez, il y a, vous l'avez vu à l'écran, pour ceux qui écoutent, ils ne voient pas. Alors, je vais dévoiler le point. C'est le 13e dans mes notes. Continue à spiritualiser au lieu de te responsabiliser. Alors, il faut que je m'asseye. Là, je vais me faire plaisir. Là, je vais vraiment me faire plaisir. Vous savez, dans la grande famille évangélique, il y a, je n'ai pas toutes les nommées, mais quelques-uns, il y a des méthodistes, il y a des baptistes, il y a des pentecôtistes, et il y a, accrochez-vous bien, ce que j'appelle des spiritualistes. Je n'ai pas dit spiritistes. Il y a des spiritualistes. Les spiritualistes sont ceux qui voient des attaques diaboliques partout, ou presque. Et voient Dieu à quelque part partout. Et comprenez-moi bien, je sais que Dieu est omniprésent. Oui, mais il a mis les deux pieds sur terre à travers son Fils. Il m'a donné une intelligence, un bon sens. On a tous un quotient plus ou moins élevé. Moi, quand je vais arriver vers le Seigneur, je vais dire, écoute, je trouve qu'à un moment donné, je devais regarder ailleurs parce que j'aurais aimé que tu m'en donnes un petit peu plus par rapport à... Mais, ah oui, regarde pas dans la cour du voisin. Voilà, c'est vrai. Mais il y a des spiritualistes, concrètement. Alors là, c'est caricaturé. Je sais que des fois, c'est vrai dans les exemples que je vais donner, mais vous allez comprendre. Par exemple, mise en situation. Ah, pasteur, je vis des combats au travail, je suis persécuté, le diable me persécute au travail, c'est terrible. Ah ouais. Et en parlant avec, tu t'aperçois qu'en fait, c'est une caricature, parce que je sais qu'il y a des vrais combats, il y a des personnes qui souffrent à cause de leur foi au travail. Mais ce n'est pas le propos de ce matin. Là, on est dans l'autre versant. Puis quand tu t'arrêtes un peu, puis tu parles avec leur entourage, là tu t'aperçois qu'en fait, ces mêmes personnes qui disent avoir des attaques diaboliques au travail sont ces mêmes personnes qui arrivent au travail avec une mine d'enterrement, austère, de religion, avec un sourire que tu as l'impression qu'il a été provoqué par une gorgée de vinaigre. Et puis que les seuls moments où ils s'expriment, c'est pour brandir leur Bible, faire la morale aux gens, puis dire « Repends-toi, Jésus revient ». Puis là, on dit, le diable m'attaque. Non, commence par te mettre un sourire dans la face, avoir une bonne attitude, arriver à l'heure, à bien faire ton boulot, à ne pas écœurer en bon québécois les gens avec ta foi. Ça ne veut pas dire de ne pas en parler. Sois juste dosé en bon sens. Tu vas voir que le diable va pas mal reculer assez vite en termes de persécution. Ah, mes enfants ne veulent plus me voir. C'est, encore une fois, c'est une caricature. Il y a des vraies situations où il y a des vraies. Vous comprenez bien ce que je dis. Ne sortez pas hors contexte. Mes enfants ne veulent plus me voir. Ils sont rebelles et tout. Et là, tu commences à discuter. Tu parles avec l'épouse ou l'époux, peu importe qui. Et tu t'aperçois qu'en fait, monsieur ou madame ou maman, papa, quand on rentre à la maison, La seule chose qu'il sait faire, c'est rabrouer son enfant, ne jamais le complimenter, lui reprocher de voir toujours la tache noire qui est au milieu de la feuille blanche. Et puis, l'image que l'enfant a de la foi, de la religion, de l'Église, c'est ça. Puis, ah, il se rebelle. Non. Père, n'irritez pas vos enfants, puis tu vas voir que la rébellion va pas mal disparaître. Ceci étant dit, je suis conscient qu'il y a des situations dans la vie où il y a des couples, des familles qui font tout, et puis les enfants ne veulent rien savoir. Je ne suis pas dans un absolutisme, j'essaie juste d'allumer des lumières. Hier, pas plus tard que hier, la réponse a surpris la personne parce qu'on était à une conférence, les jeunes étaient là, et plusieurs d'ailleurs à l'appel ICERI, et une conférence sur les neurosciences. Et quelqu'un, je croise quelqu'un que ça fait un certain temps que je n'avais pas vu, que j'apprécie beaucoup, et situation de travail, possible potentiel, potentiellement possible qu'elle, cette personne-là perde son travail. Là, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop comment je vais faire. Puis, dans tout ça, je ne sais pas ce que Dieu veut. Et là, j'ai un ami à côté de moi. J'ai dit, est-ce que toi, tu sais ce que toi, tu veux? Ah ouais. Ah ouais, c'est pas faux, ça. Et parfois, encore là, on spiritualise. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas chercher la volonté de Dieu pour ton travail? Non! Mais parfois, c'est, qu'est-ce que Dieu veut? Et j'ai l'impression que Dieu se serrait avec nous dans le salon et dit, OK, Phil, toi, tu veux quoi? Parce qu'en fait, moi, ce que je te dis occasionnellement, c'est fais de moi tes délices, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah ouais? J'ai le droit à avoir des choix, moi aussi, avoir des envies. Après ça, tu peux regarder, discuter avec Jésus. Moi, mes enfants, possiblement, il y a des grandes chances qu'ils ne vont pas faire le boulot que moi, j'aurais fait ou ferais à leur place. Il y a des grandes chances. Je ne peux pas leur imposer, voici moi ce que je peux les encourager, les conseiller en fonction d'eux, mais essentiellement, ce que je veux essentiellement, peu importe le genre de boulot qu'ils vont faire, ce que je veux profondément, c'est qu'ils soient intègres, c'est qu'ils soient loyaux, c'est qu'ils soient exemplaires, pas parfaits, évidemment, vous comprenez. Ça, c'est les bases. Après ça, qu'ils soient pilotes de l'air, travailler pour la ville, peintre, artiste, perdu dans le fond d'une campagne, je peux être pour, je peux être contre, je peux être d'accord, pas d'accord, je peux enthousiaste, pas enthousiaste. C'est pas ma vie. Je ne peux pas porter les fardeaux qui ne sont pas les miens. Je peux conseiller, mais à un moment donné, il faut que je lâche prise. Alors, là où je veux en venir, c'est que mes enfants, moi, en tant que père, j'ai du plaisir à voir, en tant que parent, j'ai du plaisir à voir que mes enfants, ils ont leur propre identité. Ils ont leur propre désir. Et parfois, on est Dieu par-ci, Dieu par-là, le diable par-ci, le diable par-là. Non! On spiritualise tellement. Les chrétiens spiritualistes. Et ça, ça nous joue des tours. Ça nous joue des tours. Il y a tellement de situations comme ça dans la vie. Je pourrais m'allonger... m'étendre sur ce sujet-là, mais et comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que la place de Dieu n'a pas sa place, que Dieu et que consulter Dieu n'est pas important, mais non. Mais parfois, on est dans la vraie vie, puis il nous a donné une intelligence, puis fais ce qu'il y a à faire, puis les soucis vont. Je simplifie, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Continue à dépenser sans réfléchir. Oh, je suis attaqué dans mes finances. Mais oui, mais tu es compulsif dans tes dépenses. Encore une fois, on spiritualise. Tu n'es pas attaqué, tu es juste compulsif. Tu as besoin de trouver la raison. Il y a peut-être un manque, il y a quelque chose que tu as besoin. Tu as besoin d'une aide extérieure, éventuellement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être. On n'est pas en mode accusation-condamnation. J'allume des lumières concrètes sur nos vies. Dépense sans réfléchir. Continue à critiquer au lieu de confronter. Il y a des personnes comme ça qui passent leur temps à dire « Ouais, ils ne sont pas contents nulle part, ni au travail, ni à l'église, ni à la maison, ni à ceci, ni à cela, mais ils ne disent jamais rien. Ils achètent la paix. Mais en dedans, c'est la guerre. » À un moment donné, arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de critiquer, puis dis. Dis-le de la bonne façon, mais dis, exprime. Écoute, là, ça ne va plus. Là. Patron, je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Puis là, éventuellement, il peut y avoir une discussion, puis après ça, tu pourras prendre une décision en fonction de ça. Mais souvent, on est... Voilà. Continue à dire, je ne peux pas, au lieu de, je vais essayer. Essaye la foi. Alors, je sais que Jésus ne s'essaye pas, Jésus s'adopte. Là, quelque part, la femme à la perte de sang, oui, il y a une conviction, est arrivée. Si je touche à son vêtement, je vais être guéri. Oui, il y a une foi. Mais après avoir eu plusieurs médecins, essaye de toucher son vêtement. Essaye autre chose. Ce n'est pas autre chose, Jésus, c'est une personne. Continue à chercher des excuses au lieu de trouver des occasions. On est fort là, souvent, parfois. Ah, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas vrai, il faut arrêter ça. On a tous 24 heures. C'est juste qu'on n'a pas le temps. Je vais parler pour moi. Là, je vous parle pour moi. Il y a des fois, je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des fois, oui. Des fois, on n'a vraiment pas eu le temps. Mais des fois, là, plus souvent qu'autrement, en fait, c'est juste que je n'ai pas mis la priorité pour telle chose à ce moment-là. Puis voilà, c'est tout. Assume-le. Rectifie le tir. cherche des excuses, continue à chercher des excuses au lieu de trouver des occasions. David et Goliath, c'est un exemple flagrant. David aurait pu dire, oh là 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 là, mes amis, méchant numéro, je me tire. Ça, c'en est une belle d'excuse. À l'inverse, c'est un classique, je sais que vous l'avez déjà entendu. À l'inverse, David, dans sa tête, a dû se dire, je paraphrase en 21e siècle, oh la méchante occasion, impossible de le manquer. Il occupe toute la salle. N'importe où que je tire, boum, on sait qu'il fallait qu'il tire dans le front. Oui, je sais, comprenez, c'est des images que je donne pour qu'il tombe à terre. Mais des fois, il y a des géants devant nos vies, il y a des situations, puis on cherche une excuse. Ah non, 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 justement, si elle est là, c'est parce que Dieu veut que tu fasses face. Si elle est là, c'est parce qu'il y a une stratégie pour pouvoir l'avoir. Tellement grosse que tu ne peux pas la manquer. Apprends les raisons de tes échecs et tu finiras sur le podium. Et en fait, ce qui est très fort, ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de fort dans tout ce que je viens de dire. Comment échouer, le mot-clé dans tout ce que j'ai dit, on aurait pu continuer la liste. Vous pouvez faire l'exercice chez vous. Contente-toi pas juste, en passant, je rappelle, de dire, ah ben, si je fais ça, j'échoue. Pourquoi? En fait, la vraie question, c'est pourquoi tu tapes sur la mauvaise touche de piano? Et là, tu trouves le moyen de t'en sortir. Peut-être pas du jour au lendemain, mais tu vas te rapprocher du but. Tu vas te rapprocher de la cible. Et le mot-clé qui est fort dans tout ça, c'est un mot, c'est continue. Continue. Continue à faire ce qui ne marche pas dans ta vie. Continuons à faire ce qui ne porte pas fruit dans notre vie. Et puis, c'est un échec garanti. Et si vous remarquez, ça, c'était le titre du message. Mais pour bien répondre à la question de comment échouer, il y a une sous-question. On peut voir la prochaine. La routine est-elle une alliée ou une ennemie? J'arrive tranquillement à la fin. Et c'est là, je n'ai pas oublié, ce n'est pas tant le diable qui mine nos vies de famille, les projets que nous avons, que ce soit individuels ou collectifs, ou notre solidité dans la foi, c'est une mauvaise maîtrise de la routine. Les plus grands combats ne sont pas forcément dans les plus grandes épreuves intenses de la vie. Dans toutes les situations que je vous ai décrites, c'est juste la vie de tous les jours. Cette, excusez-moi le terme, foutue routine qui nous bouffe de l'énergie. La routine a des choses de bien, elle peut nous sauver la vie quand tu es malade, par exemple, en voiture, tu n'as pas le choix de rentrer, tu as adopté des réflexes de routine de conduite sur comment te comporter sur la route pour dire, OK, ton cerveau est en mode automatique, le cerveau est très, très bien fait. Et là, oui, mais à un moment donné, la routine est bonne dans la mesure où elle ne te nuit pas. Et en fait, la routine souvent va tuer des couples après 20, 30 ans de mariage. La routine va tuer des célibataires, pour aller dans l'autre, des célibataires dans leur foi après des années, des 20, 30 ans dans leur foi. La routine va faire avorter des projets, des super projets. Pourquoi? Parce que la lassitude s'installe. Parce que la routine, c'est quelque chose de terrible. Et la routine nous use au même titre que Dalila a eu Samson à l'usure. 3-4 fois, Dalila arrive, révèle-moi ton secret, révèle-moi ton secret, révèle-moi ton secret. Ça, c'est un autre message, mais là, il joue avec le feu et à un moment donné, bam, il révèle le secret. Je suis hors contexte, mais le principe est le même, de tout le temps revenir à la charge. La routine pour les sportifs, c'est comme courir en descente. Si tu ne contrôles pas ta descente, c'est elle qui te contrôlera t'emballera avec elle. Courir dans la descente, c'est presque plus difficile que de courir en montée. Ce n'est pas la même souffrance physique, mais en descente, à un moment donné, il faut que tu retiennes sur les... Et avec le facteur fatigue, la tendance, c'est... Ce n'est pas que tu cours vite parce que tu performes, c'est juste que tu as perdu le contrôle. Et ça, c'est la routine dans nos vies parfois. Si tu ne contrôles pas la routine, c'est la routine qui va te contrôler, qui va t'amener en bas de la descente. Et à un moment donné, il faut que tu... On va arriver, peut-être que là, j'entends quelques pensées, mais ce n'est pas très spirituel, ce message. C'est un message humaniste, c'est sur changer nos comportements pour que ça aille mieux. Non, non, j'y viens. Alors, si je résume simplement, la recette de l'échec, c'est, est-ce que on arrive à remplir les phrases? Le mot-clé continue à faire les mêmes choses avec les mêmes personnes, de la même façon, au même moment. Bon, parenthèse, on peut mettre la prochaine, voilà, on l'a au total. Ça se peut que tu fasses toutes ces choses-là et ça marche. C'est une bonne routine. une bonne routine, si ça marche, tu la gardes. Tu ne changes pas une formule qui marche. Là, on est dans le sujet que si ça ne marche pas. Donc, continue à faire les mêmes choses. Et parfois, dans cet énoncé-là, il n'y a pas grand-chose à changer. Des fois, tu fais les mêmes choses et c'est des bonnes choses, mais tu les fais juste pas avec la bonne personne ou les bonnes personnes. Parfois, c'est les bonnes choses, les bonnes personnes, mais tu ne te fais pas la bonne façon. Et tu peux continuer cet exercice dans tous les sens que tu veux. Ça peut être le mauvais moment. Ce n'est pas forcément tout ça à changer. En fait, c'est très simple. La définition de la folie, est-ce que sûrement qu'il y en a plusieurs ici qui doivent connaître, c'est quoi la définition de la folie? Quelle est la définition de la folie? Et voilà, merci beaucoup. Ça résume le message. La définition de la folie, c'est, faire, moi j'ai dit comme ça, mais c'est exactement la même chose, faire les mêmes choses de la même façon en espérant avoir un résultat différent. C'est exactement ce qu'on vient d'entendre. La folie, c'est que tu vas faire le même comportement, les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes ceci, mais tu attends à ce que ça change. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, dans l'Église aussi, dans notre façon de faire, dans la chrétienté, eh bien, des fois, on fait des choses, puis on s'attend à avoir des résultats différents. Ça fait 30 ans qu'on fait des choses comme ça, ça fait 30 ans que ça ne marche pas, mais ça fait 30 ans qu'on va continuer encore. La folie! C'est fou! Heureusement que Dieu nous a donné un cerveau. Et j'aime bien la citation de Thomas Edison, que vous connaissez tous. « Je n'ai pas échoué par rapport à l'ampoule électrique. » J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Mais comprenez quelque chose, c'est que dans ces 10 000 tests, il n'y en a pas une qui est pareille que l'autre. Il n'a pas cherché à reproduire de la même façon pour avoir une ampoule qui ne marche pas. Il a trouvé 10 000 façons différentes qui ne marchent pas. Et il voit, et c'est très beau comme il le dit, c'est un grand classique, hein, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Alors qu'on puisse quitter ce dimanche, c'est-à-dire continue à trouver des solutions qui, jusqu'à ce que ça marche. Mais ne sors pas de cet endroit en disant dans ma vie de couple ça va changer, en faisant, couple, travail avec les affaires, dans n'importe quoi, dans ta vie spirituelle, dans ta croissance spirituelle, en disant je vais continuer à faire les mêmes choses, à respecter le même horaire. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et dises peut-être que faut que je fasse des choses, il faut que je change un petit truc. Peut-être c'est le timing, peut-être c'est l'horaire, peut-être c'est avec qui, peut-être ça ne marche pas, mets-toi avec quelqu'un. Moi, je suis en plein dans l'évangile de Jean avec un ami et des fois, je me retrouve avec même plusieurs des personnes différentes qui ne sont même pas connectées entre eux. On lit le même passage, puis on s'édifie et moi, ça me motive. J'ai trouvé un moyen, ce n'est pas le seul, mais parfois, je fais ça. Et ça me motive que d'être tout seul dans mon coin, seulement à lire ma Bible. Trouve un autre moyen. On termine. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. Voilà. La recette, on peut dire, continue à faire ce qui ne fonctionne pas, arrête de faire ce qui fonctionne bien, ou abandonne complètement. Il y a des gens qui vont dire, le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Mais l'idée, c'est de, va à la source, allons à la source, cherchons. Ah oui. Oh, mais ça, c'est un évangile humaniste. C'est beaucoup sur le comportement, change ton comportement. OK. Quand on comprendra que le Saint-Esprit Tout-Puissant de Dieu, trois fois seul, créateur des cieux et de la terre, nous a été donné dans nos vies pour nous habiter, pas seulement pour lever nos mains le dimanche matin, pas seulement pour témoigner à notre voisin au travail, pas seulement pour prêcher sa parole dans un groupe, dans une jeunesse ou comme aujourd'hui, mais que le Saint-Esprit de Dieu est là pour m'aider dans les moindres détails de ma vie quotidienne, dans chaque aspect de la routine. Oh, il vit en moi. Il prend plaisir à travailler en et avec moi, dans les moindres détails, aussi banals soient-ils. Alors là, je dis oui, en Jésus, le Seigneur, aide-moi à avoir de la maîtrise dans ma conduite. Seigneur, aide-moi à adopter les comportements qu'il faut changer, alors qu'il a changé mon cœur. Aide-moi à comprendre pourquoi je n'arrive pas à faire les premiers pas. Aide-moi à comprendre pourquoi. Aide-moi, révèle ce qui est caché dans mon cœur ou conduis-moi vers la bonne personne. Voyez-vous que là, tout d'un coup, une vie vécue dans une perspective chrétienne, elle devient surnaturelle et à la fois très, très, très concrète. Et des fois, c'est des choses très, très simples au niveau de la routine. Il y a à un moment donné, je vous donne un exemple, puis je vais en donner un autre au risque, parce qu'un des grands dangers qu'on a, nous les pasteurs, c'est on voit le gars idéal en avant. Et à un moment donné, j'ai eu cette idée, et je vous l'ai dit parce que ça peut peut-être faire du bien à certaines personnes. Et je ne voulais pas, mais ce n'est pas grave si je me fais juger. Ouais, ils se vantent et tout. Et à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé, puis j'ai dit, moi, je n'ai pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour offrir des fleurs à ma femme. Période de Saint-Valentin, je me suis dit, c'est la routine, je fais un truc, je vais briser la routine. Je vous le dis pour que vous l'appliquiez, que nous l'appliquions dans toutes les sphères de nos vies. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, j'étais comme un gamin. J'ai pris la voiture, j'avais une petite visite à faire, tac, je passais dans le coin, je me suis arrêté, je me suis organisé pour arrêter ma voiture dans le même sens que je peux ouvrir la voiture de ma femme. Là, j'ai les clés, je regardais partout, j'espère qu'elle ne me voit pas. J'ouvre la porte, je mets la rose sur le volant. Et là, je ferme la porte et je me tire. J'étais comme un gamin, j'ai bientôt 50 ans. J'ai dit, yes! Mon cœur faisait boum, 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 boum. Juste pour moi, ça m'a fait du bien. Ça brisait quelque chose en dedans. Ma femme surprise, je ne vous raconterai pas la suite, ça c'est entre nous. Il y a des limites, quand même. Mais voyez-vous, des fois, on se fait des montagnes alors qu'il suffit juste de prier. Tu peux le faire en priant, tu peux le faire parce que simplement Dieu t'a donné une imagination. Encore, tu n'as pas toujours besoin de prier pour tout. Dieu est là. Comprenez-moi, j'espère que vous me connaissez assez pour savoir que j'accorde une immense importance à la prière. Mais des fois, c'est juste, sois toi-même. Sors de tes carcans. Fais différent. Soyons fous. Ne laissons pas la routine nous emballer dans sa descente de tous les jours. Là, j'en parle à quelqu'un, il dit, tu as juste offert une rose. Je dis, mais attends, comment je l'ai offert? Non seulement j'ai économisé sur le budget, mais en plus, j'ai eu un effet surprise. Et j'ai cassé quelque chose. À l'inverse, pour établir les choses, combien de fois ça m'est arrivé d'écrire un petit mot à ma femme, « Salut chérie, je t'aime. » Là, je rentre à la maison, parce que Pasteur Phil, des fois, bourrasse. Et là, ça ne se dit pas bourrasse, marmonne. Ça m'arrive. Saigne-moi, je vais saigner comme toi, j'ai les mêmes problèmes que chacun d'entre nous ici. « Salut chérie, je t'aime, j'ai hâte de te voir. » La journée se finit. J'arrive, j'ai une mine. Même les anges ne veulent pas m'accueillir dans leur présence. Et puis, c'est pas le gros truc. Puis là, c'est... Ça sert à quoi que tu m'écrives des mots doux pour avoir une humeur de bip à la maison? Ouais, t'as raison, chérie. Mon point, c'est simple. C'est pas une méga crise de couple, hein. Juste une petite affaire de routine. Mais si je laisse Dieu prendre la place, plus je le laisse prendre la place, et plus, je pense que vous avez compris le principe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être terminer avec un dernier chant, là, rapidement, de quelques annonces à faire, et qu'on puisse laisser mûrir ce message vraiment pratico-pratique. Mais je crois que c'est un sujet qui est très spirituel. Et je crois que si on capte plusieurs choses qui ont été communiquées ce matin, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent commencer à devenir... à grandir dans leur croissance spirituelle et devenir des piliers dans la foi qui ne se laissent pas embranler parce qu'ils ont Dieu dans la routine de leur vie. Amen. Le Saint-Esprit est pour lundi, mardi, mercredi. Pendant que tu pèles tes patates, le Saint-Esprit est encore là. Quand tu te coupes le doigt puis tu as envie de dire un gros mot, même après avoir dit le gros mot, le Saint-Esprit est encore là.